Maintenant, on va parler de cette crise qui entoure l'utilisation de la cigarette électronique, le vapotage. Aux États-Unis, on serait rendu maintenant à 13 décès confirmés, quelques centaines de personnes donc qui ont développé de graves maladies pulmonaires. On sait déjà que vendredi, le ministère de la Santé a confirmé qu'il y avait un premier cas au Québec d'une personne atteinte de maladies pulmonaires. Et là, on se demande quel est le lien, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont développé ces problèmes de santé et en quoi la cigarette électronique a joué un rôle. J'en parle avec la docteure Mylène Drouin, qui est directrice régionale de la santé publique de Montréal. Docteur Drouin, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
À votre connaissance, il n'y a pas d'autres cas depuis vendredi?
Non, on a eu quelques signalements là, à travers la province, mais c'est le seul cas confirmé là, pour le moment. Donc, parce que pour confirmer un cas, on doit éliminer toutes les causes infectieuses et ou maladies chroniques. Donc, c'est vraiment le seul cas là, confirmé pour le Québec.
Je voyais en fin de semaine que, en fait, il y a une piste qui semble privilégiée, qui est celle, dans le fond, de l'utilisation de produits liés au cannabis, donc qu'on utilise dans des cigarettes électroniques.
Oui, actuellement, vraiment, toute l'investigation se fait beaucoup aux États-Unis puisque les 800 quelques cas et 13 décès sont là-bas. Donc, l'accès aux produits pour commencer à faire des analyses puis des études épidémiologiques se trouve plus sur le marché américain. On n'a pas vraiment, malgré le fait qu'on a des hypothèses, on n'arrive pas encore à trouver le ou les agents causaux. C'est clair, en fin de semaine, il en parlait, puis on le savait, on le voyait depuis le début. Il y a les gens qui ont consommé des produits incluant du THC à l'intérieur de leur vapoteuse sont représentés en plus grand nombre, mais ça n'exclut pas qu'on a des gens qui avaient du THC et de la nicotine ou qui avaient vapoté uniquement de la nicotine. Donc, l'agent causal, on le cherche encore et on a différentes hypothèses liées à c'est quoi le phénomène. Est-ce que c'est une réaction inflammatoire aiguë? Est-ce que c'est plus ce qu'ils appellent eux autres aussi le type de pneumonie grave? Donc, c'est quelque chose qui se vaporise, qu'on inhale et après qui se redépose en forme liquide à l'intérieur des poumons, donc qui créerait un petit peu cette infiltration diffuse à l'ensemble des poumons. Mais on est encore vraiment en investigation, puis à ce stade-ci, on n'est pas capable de mettre le doigt spécifiquement sur un agent à l'intérieur d'un produit.
Bon, mais là, les gens qui nous écoutent là, vont dire, moi, j'ai commencé à vapoter pour arrêter de fumer, ça va bien. C'est toujours mieux, j'imagine, la cigarette électronique que la cigarette traditionnelle.
Bien, le vapote, pour les gens, on a permis la cigarette électronique, c'est un produit commercialisé. Dans le contexte de la cessation tabagique, nous, on a toujours dit on a des produits et des programmes homologués en pharmacie pour lesquels on a la preuve d'innocuité, que c'est pas dangereux. Bien, il y a certains risques, mais on a les études d'efficacité. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est la stratégie numéro un. Si quelqu'un est actuellement un ancien fumeur puis qui a utilisé la vapoteuse, on lui demande pas de retourner à la cigarette, loin de là. Par contre, on demande vraiment que les gens qui vapotent actuellement et qui ne comptent pas arrêter utilisent des produits qui sont légaux, qui ne changent pas et qui ne transforment pas soit leur dispositif ou le produit qui est mis à l'intérieur. Donc, qu'on utilise vraiment les produits légaux et aucune transformation parce que ça l'ajoute un risque supplémentaire. Et si vous développez des symptômes, que ce soit de la toux, des essoufflements, des douleurs thoraciques, consultez rapidement pour qu'on puisse là évidemment vous soigner, mais aussi voir l'association là, avec le vapotage, donc d'être plus vigilant. Parce qu'actuellement, aux États-Unis, on répertorie les cas les plus sévères, mais c'est probablement un spectre de la maladie. On a probablement des cas moins sévères qui nous échappent et pour lesquels qu'on ne peut pas investiguer, qui sont associés aussi au vapotage.
Merci beaucoup, Dr Drouin. Bonne journée.
Merci,
Au revoir.
Journée à vous.
Dr Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal. Puis un dernier volet sur la santé, c'est dans The Gazette ce matin, le fameux carnet de santé des Québécois. On comprend le principe là, qui était fort louable, c'est-à-dire nous permettre d'avoir accès à nos résultats d'examen, prise de sang, radiographie. Et là, bon, ben, il semble qu'il y a un certain nombre de ratés dans le système. Je vous donne des exemples. Je vous en donne deux. Un qui est dans The Gazette, puis quelqu'un qui m'a écrit tantôt aussi. Il y a certains patients qui apprennent qu'ils ont un cancer sans avoir vu le médecin. Alors, comment ça peut arriver? Bien, le médecin n'a peut-être pas eu le résultat, ou en tout cas, il n'a pas eu le temps de communiquer avec vous. Votre résultat, donc, est déjà dans votre dossier. Vous allez consulter votre dossier, puis vous apprenez devant l'écran que vous avez malheureusement un diagnostic de cancer. Il y a une personne qui dit que comme son fils a 14 ans, elle n'a pas accès. Le problème, c'est que son fils a un âge mental d'à peu près 5 ans, puis elle doit quand même surveiller les traitements médicaux, puis les examens et tout ça. Puis en tout cas, bref, comme bien souvent ce qu'on fait en informatique au Québec, au niveau du gouvernement, ça demeure assez compliqué. Marc, comment ça va sur le réseau?